Chapitre 9. La roche tarpéienne. Monsieur Beaumagnan, c'est ici? À l'intérieur, le bâton d'un Judas avait été tiré, et le visage d'un vieux domestique se collait à la grille.
C'est ici, mais monsieur ne reçoit pas.
Allez lui dire que c'est de la part de mademoiselle Brigitte Rousselin. Le logis de Beaumagnan, qui occupait le rez-de-chaussée, formait hôtel avec le premier étage. Pas de concierge, pas de sonnette. Un marteau de fer qu'on heurtait contre une porte massive munie d'un guichet de prison. Raoul attendit plus de 5 minutes. La visite d'un jeune homme, alors qu'on prévoyait celle de la jeune actrice, devait intriguer les trois personnages.
« On demande à monsieur de donner sa carte. »
Raoul donna sa carte. Nouvelle attente. Puis un bruit de verrous tirés et de chaînes décrochées, et Raoul fut conduit à travers un large vestibule bien ciré, semblable à un parloir de couvent et dont les murs suintaient. On passa devant plusieurs portes. La dernière était doublée d'un ventail capitonné de cuir. Le vieux serviteur ouvrit et referma derrière le jeune homme qui se trouva seul en face de ses trois ennemis. Car pouvait-il appeler autrement ces trois hommes dont deux, tout au moins, guettaient son entrée, debout, dans des postures de boxeurs qui vont déclencher leur attaque.
C'est lui, c'est bien lui. Beaumagnan, c'est lui, c'est notre homme de guerre, celui qui a volé la branche du chandelier. Oh, il en a de l'aplomb. Que venez-vous faire aujourd'hui? Si c'est pour la main de ma fille.
Mais enfin, monsieur, vous ne pensez donc qu'à cela? Non, j'éprouve pour mademoiselle Clarisse les mêmes sentiments profonds. Je garde au fond de moi le même espoir respectueux. Mais, et pas plus aujourd'hui que le jour de guerre, le but de ma visite n'est matrimonial.
Alors, votre but?
Le jour de guerre, c'était de vous enfermer dans une cave. Aujourd'hui, Beaumagnan dut intervenir, sans quoi Godefroy d'Étigue s'élançait sur l'intrus.
Restons-en là, Godefroy. Asseyez-vous, et que monsieur veuille bien nous dire la raison de sa visite.
Lui-même, il s'assit devant son bureau. Raoul s'installa. Avant de parler, il prit le temps d'examiner ses interlocuteurs, dont les visages lui semblaient changés depuis la réunion de la haie des Tigues. En particulier, le baron avait vieilli. Ses joues s'étaient creusées, et l'expression de ses yeux avait, à certaines minutes, quelque chose de hagard qui frappa le jeune homme. L'idée fixe, le remords, donne cette fièvre et cette inquiétude que Raoul crut discerner également sur le visage tourmenté de Beaumagnan. Cependant, celui-ci restait plus maître de lui. Si le souvenir de Josine morte le hantait, cela devait être plutôt à la manière d'un débat de conscience où l'on juge ses actes et où l'on se confirme dans son droit. Drame tout intérieur, qui n'affectait pas l'apparence même de l'homme et ne pouvait compromettre son équilibre que par saccades et aux minutes de crise.
Ces minutes-là, c'est à moi de les créer si je veux réussir.
Lui ou moi, il faut que l'un des deux flanche.
Que désirez-vous? Le nom de mademoiselle Rousselin vous a servi pour pénétrer chez moi. Dans quelle intention?
Dans l'intention, monsieur, de poursuivre l'entretien que vous avez commencé hier soir avec elle au Théâtre des Variétés.
L'attaque était directe. Mais Beaumagnan ne se déroba pas.
J'estime que cet entretien ne pouvait se continuer qu'avec elle. Et c'est elle seule que j'attendais.
Une raison sérieuse a retenu, mademoiselle Rousselin.
Une raison très sérieuse?
Oui. Elle a été victime d'une tentative de meurtre.
Hein? Que dites-vous? On a essayé de la tuer. Et pourquoi?
Pour lui prendre les 7 pierres, de même que vous et messieurs lui aviez pris les 7 anneaux.
Godefroy et Oscar de Bento
s'agitèrent sur leurs chaises. Beaumagnan se contint, mais il observait avec étonnement ce tout jeune homme dont l'intervention inexplicable prenait cette allure de défi et d'arrogance. En tout cas, l'adversaire lui semblait d'étoffe un peu mince, et on le sentit au ton négligent de sa riposte.
« Voilà deux fois, monsieur, que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, et d'une manière qui nous obligera sans doute à vous donner la leçon que vous méritez. Une première fois à Gœur, après avoir attiré mes amis dans un guet-apens, vous vous êtes emparé d'un objet qui nous appartenait, ce qui, en langage ordinaire, s'appelle tout simplement un vol qualifié. Aujourd'hui, votre agression est encore plus choquante, puisque vous venez nous insulter en face, sans le moindre prétexte, et tout en sachant fort bien que nous n'avons pas volé ces bagues, mais qu'elles nous ont été cédées. Pouvez-vous nous dire les motifs de votre conduite ?
Vous savez fort bien également qu'il n'y a eu de mon côté ni vol ni agression, mais simplement l'effort de quelqu'un qui poursuit le même but que vous.
Ah ! Vous poursuivez le même but que nous. Et quel est ce but, s'il vous plaît ?
La découverte des 10 000 pierres précieuses cachées au creux d'une bande de granit. Du coup, Beaumagnan fut démonté, et par son attitude et son silence gêné, il le laissa voir assez maladroitement. Sur quoi, Raoul renforça son attaque. Alors, n'est-ce pas, comme nous cherchons tous deux le trésor fabuleux des anciens monastères, il arrive que nos chemins se croisent, ce qui produit un choc entre nous. Toute l'affaire est là. Le trésor des monastères, la borne de granit, les 10 000 pierres précieuses. Chacun de ces mots frappait Beaumagnan comme une massue. Ainsi donc, on devait encore compter avec ce rival. La Cagliostro disparue, il surgissait un autre compétiteur dans la course au million. Godefroy d'Étig et Bento roulaient des regards féroces et bombaient leurs bustes d'athlètes prêts à la lutte. Beaumagnan, lui, se raidissait pour recouvrer un sang-froid dont il sentait l'impérieuse nécessité.
« Légende !»
dit-il tout en essayant d'assurer sa voix et de retrouver le fil de ses idées.
« Commérage de bonnes femmes, contes à dormir debout, et c'est à cela que vous perdez votre temps. »«
Je ne le perds pas plus que vous, » répliqua Raoul, qui ne voulait point que Beaumagnan se remît d'aplomb et qui ne manquait pas une occasion de l'étourdir. « Pas plus que vous, dont tous les actes tournent autour de ce trésor. Pas plus que ne le perdait le cardinal de bonne chose, dont la relation n'était pourtant pas un commérage de bonne femme. » Pas plus que la douzaine d'amis dont vous êtes le chef et l'inspirateur.
Oh, Seigneur Dieu, ce que vous êtes bien enseigné.
Beaucoup mieux que vous ne pouvez le croire.
Et de qui tenez-vous ces renseignements ?
D'une femme.
Une femme ?
Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro.
« La comtesse de Cagliostro, vous l'avez donc connue ?»
Le plan de Raoul se réalisait soudain. Il lui avait suffi de jeter dans le débat le nom de Cagliostro pour mettre l'adversaire en désarroi. Et ce désarroi était tel que Beaumagnan, imprudence inexplicable, parlait de la Cagliostro comme d'une personne qui n'était plus vivante.
« Vous l'avez connue ? Où ? Quand ? Que vous a-t-elle dit ?
Je l'ai connue au début de l'hiver dernier, comme vous, monsieur, répondit Raoul, aggravant son offensive. Et tout cet hiver, jusqu'au moment où j'ai eu la joie de rencontrer la fille du baron d'Étig, je l'ai vue à peu près chaque jour.
Vous mentez, monsieur. Elle n'a pas pu vous voir chaque jour. Elle aurait prononcé votre nom devant moi. J'étais assez de ses amis pour qu'elle ne gardât pas un secret de ce genre.
Elle gardait celui-là.
Infamie ! Vous voulez faire croire qu'il y a eu entre elle et vous une intimité impossible. C'est faux, monsieur. On peut reprocher à Joséphine Balsamo bien des choses. Sa coquetterie, sa fourberie, mais pas cela. Pas un acte de débauche.
L'amour n'est pas la débauche.
Que dites-vous? De l'amour? Joséphine Balsamo vous aimait?
Oui, monsieur. Beaumagnon était hors de lui. Il brandissait son poing devant le visage de Raoul. À son tour, on dut le calmer. Mais il tremblait de fureur et la sueur lui coulait du front.
Ah, je le tiens.
Sur la question du crime et des remords, il ne bronche pas. Mais il est encore rongé par l'amour. Et je le conduirai où je voudrais. Une ou deux minutes s'écoulèrent. Beaumagnon s'épongeait la figure. Il avala un verre d'eau et se rendant compte que l'ennemi, si mince qu'il fût, n'était pas de ceux dont on se débarrasse en un tournement, il reprit.
« Nous nous égarons, monsieur. Vos sentiments personnels pour la comtesse de Cagliostro n'ont rien à voir avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Je reviens donc à ma première question. Que venez-vous faire ici ?»«
Rien que de très simple. » Et une brève explication suffira. À l'égard des richesses religieuses du Moyen-Âge, richesses que, personnellement, vous voulez faire entrer dans les caisses de la Société de Jésus, voici où nous en sommes. Ces offrandes, canalisées à travers toutes les provinces, étaient envoyées aux sept principales abbayes de Caux et constituaient une masse commune gérée par ce qu'on pourrait appeler sept administrateurs délégués, dont un seul connaissait l'emplacement du coffre-fort et le chiffre de la serrure. Chaque abbaye possédait une bague épiscopale ou pastorale qu'elle transmettait de génération en génération à son propre délégué. Comme symbole de sa mission, le comité des sept était représenté par un chandelier à sept branches, dont chaque branche portait, souvenir de la liturgie hébraïque et du temple de Moïse, une pierre de la même couleur et de la même matière que la bague à laquelle elle correspondait. Ainsi, la branche que j'ai trouvée à Gœur porte une pierre rouge, un faux grenat, qui était la pierre représentative de telle abbaye. Et d'autre part, nous savons que le frère Nicolas, dernier administrateur en chef des monastères cauchois, était un moine de l'abbaye de Fécamp. Nous sommes d'accord.
Oui.
Donc, il suffit de connaître le nom des sept abbayes pour connaître sept emplacements ou des recherches et des chances d'aboutir. Or, sept noms sont inscrits à l'intérieur des sept anneaux que Brigitte Rousselin vous a cédés hier soir au théâtre. Ce sont ces sept anneaux que je vous demande d'examiner.
C'est-à-dire que nous avons cherché pendant des années et des années et que vont du premier coup. Vous prétendez parvenir au même but que nous.
C'est exactement cela.
Et si je refuse?
Pardon? Refusez-vous? Je ne répondrai qu'à une réponse formelle.
Évidemment, je refuse. Votre demande est absolument insensée. Et de la façon la plus catégorique, je refuse.
Alors je vous dénonce. Beaumagnon parut abasourdi. Il observa Raoul comme s'il eût affaire à un fou.
« Vous me dénoncez? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire ?»«
Je vous dénonce, tous les trois. »«
Tous les trois? Mais à quel propos, mon petit monsieur ?»«
Je vous dénonce tous les trois comme les assassins de Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro. » Il n'y eut pas la moindre protestation. Pas un geste de révolte. Godefroy d'Étigues et son cousin Bento s'effondrèrent un peu plus sur leur chaise. Beaumagnon était livide, et son ricanement s'achevait en une grimace affreuse. Il se leva, donna un tour de clé à la serrure, et mit la clé dans sa poche, ce qui eut pour effet de rendre quelques ressorts à ses deux acolytes. Le coup de force que semblait annoncer l'acte de leur chef les ranimait. Raoul eut l'audace de plaisanter.
« Monsieur, quand un conscrit arrive au régiment,
On le plante à cheval, sans étrier, jusqu'à ce qu'il tienne d'aplomb.
Ce qui signifie
ceci. Je me suis juré de ne jamais porter de revolver sur moi, jusqu'au jour où je saurai faire face à toutes les situations avec le seul recours de mon cerveau. Donc, vous êtes averti. Je n'ai pas d'étrier, ou plutôt, je n'ai pas de revolver. Vous êtes trois, tous trois armés, et je suis seul. Donc.
Donc, assez de mots, des faits. Vous nous accusez d'avoir assassiné la Cagliostro.
Oui.
Vous avez des preuves pour soutenir cette accusation ahurissante?
J'en ai.
J'écoute.
Voici. Il y a quelques semaines, j'errais autour du domaine de la haie des Tigues, espérant que le hasard me permettrait de voir Mademoiselle des Tigues, quand j'ai aperçu une voiture conduite par un de vos amis. Cette voiture est entrée dans le domaine. Moi également. Une femme, Joséphine Balsamo, a été transportée dans la salle de l'ancienne tour, où vous étiez tous réunis en soi-disant tribunal. Son procès a été instruit de la façon la plus déloyale et la plus perfide. Vous étiez l'accusateur public, monsieur, et vous avez poussé la fourberie et la vanité jusqu'à laisser croire que cette femme avait été votre maîtresse. Quant à ces deux messieurs, ils ont joué le rôle de bourreau.
La preuve, la preuve !
Grinça Beaumagnan, dont la figure devenait méconnaissable. J'étais là, couché dans l'embrasure d'une ancienne fenêtre, au-dessus de votre tête, monsieur.
Impossible ! Si c'était vrai, vous auriez tenté d'intervenir et de la sauver.
La sauver de quoi ? Demanda Raoul, qui ne voulait justement rien révéler du sauvetage de la Cagliostro. J'ai cru, comme vos autres amis, que vous la condamniez à la claustration dans une maison de fous anglaise. Je suis donc parti en même temps que les autres. J'ai couru jusqu'à Étretat. J'ai loué une barque. Et le soir, j'ai ramé au-devant de ce yacht anglais que vous aviez annoncé et dont j'avais l'intention d'effrayer le capitaine. Fausse manœuvre, et qui a coûté la vie à la malheureuse. Ce n'est que plus tard que j'ai compris votre ruse ignoble, et que j'ai pu reconstituer votre crime dans toute son horreur. La descente de vos deux complices par l'escalier du curé, la barque trouée et la noyade. Tout en écoutant avec une frayeur visible, les trois hommes avaient rapproché leurs chaises peu à peu. Bento écarta la table qui faisait comme un rempart au jeune homme. Raoul avisa la face atroce de Godefroy des Tigues et le rectus qui lui tordait la bouche. Un signe de Beaumagnan, et le baron braquait un revolver et brûlait la cervelle de l'imprudent. Et peut-être fût-ce précisément cette imprudence inexplicable qui retardait l'ordre de Beaumagnan. Il chuchota, l'air redoutable.
« Je vous répéterai, monsieur, que vous n'aviez pas le droit d'agir comme vous l'avez fait et de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas. Mais je me refuse à mentir et à nier ce qui fut. Seulement, je me demande, puisque vous avez surpris un tel secret, comment vous osez être là et nous provoquer? C'est de la démence. »
« Pourquoi donc, monsieur ?»«
Parce que votre existence est entre nos mains. »
Il haussa les épaules. « Mon existence est à l'abri de tout danger. » »«
Nous sommes trois, cependant, et d'humeur peu accommodante sur un point qui touche d'aussi près notre sécurité. »«
Je ne cours pas plus de risques entre vous trois que si vous étiez mes défenseurs. »
« En êtes-vous absolument certain ?»«
Oui, puisque vous ne m'avez pas encore tué, après tout ce que j'ai dit. »«
Et si je m'y décidais ?»«
Une heure plus tard, vous seriez arrêtés tous les trois. »«
Allons donc !»«
Comme j'ai l'honneur de vous le dire, il est 4h05. »« Un de mes amis se promène aux environs de la préfecture de police. » Si à 4h15 je ne l'ai pas rejoint, il avertit le chef de la sûreté.
Des blagues, des balivernes.
s'écria Beaumagnan, qui semblait reprendre espoir. « Je suis connu. Dès qu'il aura prononcé mon nom, on lui rira au nez à votre ami. »
« On l'écoutera. »«
En attendant, »
murmura Beaumagnan, qui se tourna vers Godefroy des Tigues. L'ordre de mort allait être donné. Raoul éprouva la volupté du péril. Quelques secondes encore, et le geste dont il avait retardé l'exécution par son extraordinaire sang-froid serait accompli.
Un mot encore. Parlez, mais à la condition que ce mot soit une preuve contre nous. Je ne veux plus d'accusation. De cela et de ce que la justice peut penser, je m'en charge. Mais je veux une preuve qui me montre que je ne perds pas mon temps en discutant avec vous. Une preuve immédiate. Sinon...
Il s'était levé de nouveau. Raoul se dressa devant lui, et les yeux dans les yeux, tenace, autoritaire. Il articula.
« Une preuve. Sinon, c'est la mort, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
Voici ma réponse. Les 7 anneaux, tout de suite. Sans quoi ?»«
Sans quoi ?»«
Mon ami remet à la police la lettre que vous avez écrite au baron des Tigues pour lui indiquer le moyen de s'emparer de Joséphine Balsamo et pour le contraindre à l'assassinat. »
Beaumagnan joua la surprise.
« Une lettre ? Des conseils d'assassinat ? » ?»«
Oui, une lettre en quelque sorte déguisée et dont il suffisait de négliger les phrases inutiles. »
Ah, « ah, ah, ah oui, oui, je sais, oui, je me rappelle, un griffonnage. »
Un griffonnage qui constitue contre vous la preuve irrécusable que vous réclamiez.
En effet, je l'avoue. Seulement, je ne suis pas un collégien, et je prends mes précautions. Or, cette lettre me fut rendue par le baron des Tigues, dès le début de la réunion.
La copie vous fut rendue, mais j'ai gardé l'original, que j'ai trouvé dans une rainure du bureau à cylindre dont se sert le baron. C'est cet original que mon ami remettra à la police.
Le cercle formé autour de Raoul se desserra. Les visages féroces des deux cousins n'avaient plus d'autre expression que celle de la peur et de l'angoisse. Raoul pensa que le duel était fini, et fini sans qu'il y eût réellement combat. Quelques froissements d'épée, quelques feintes, pas de corps à corps. L'affaire avait été si bien menée, il avait par des manœuvres adroites si bien acculé Beaumagnan à une situation si tragique que dans l'état d'esprit où il se trouvait, Beaumagnan ne pouvait plus juger sainement les choses et discerner les points faibles de l'adversaire. Car enfin, cette lettre, Raoul affirmait bien qu'il en possédait l'original. Mais sur quoi s'appuyait-il pour l'affirmer ? Sur rien. De sorte que Beaumagnan, qui exigeait une preuve irréfutable et palpable avant de céder, tout à coup, par une anomalie singulière, mais à quoi les manœuvres de Raoul avaient abouti, se contentait de l'unique affirmation de Raoul. De fait, il lâcha pied brusquement, sans marchandage et sans tergiversation. Il ouvrit le tiroir, prit les 7 anneaux et dit simplement
« Qui m'assure que vous ne vous servirez plus de cette lettre contre nous ?»«
Vous avez ma parole, monsieur. Et d'ailleurs, entre nous, les circonstances ne se représentent jamais de la même façon. La prochaine fois, vous saurez prendre l'avantage. »
« N'en doutez pas, monsieur. »
Raoul saisit les anneaux d'une main fébrile. Chacun d'eux, en effet, portait à l'intérieur un nom. Sur un bout de papier, rapidement, il inscrivit les 7 noms d'abbaye. Fécamp, Saint-Vendry, Jumièges, Valmont, Cruchet-le-Valas, Montivilliers, Saint-Georges de Beaucherville. Beaumagnan avait sonné, mais il retint le domestique dans le couloir. Et s'approchant de Raoul,
« À tout hasard, une proposition. Vous connaissez nos efforts. Vous savez exactement où nous en sommes et que le but, en définitive, n'est pas éloigné. C'est mon avis. Eh bien, seriez-vous disposé, je parle sans embâge, à prendre place au milieu de nous?
Au même titre que vos amis?
Non, au même titre que moi.
L'offre était loyale. Raoul le sentit et fut flatté de l'hommage qu'on lui rendait. Peut-être eût-il accepté s'il n'y avait pas eu Joséphine Balsamo. Mais tout accord était impossible entre elle et Beaumagnan.
Je vous remercie, mais pour des raisons particulières, je dois refuser.
Donc, ennemi?
Non, monsieur. Concurrent.
Ennemi est comme tel exposé à
être traité comme la comtesse de Cagliostro.
Vous l'avez dit, monsieur. Vous savez que la grandeur de notre but excuse les moyens que nous sommes parfois contraints d'adopter. Si ces moyens se retournent un jour ou l'autre contre vous, vous l'aurez voulu.
Je l'aurais voulu.
Beaumagnan rappela le domestique.
Reconduisez, monsieur.
Raoul fit 3 salutations profondes et s'en alla le long du couloir jusqu'à la porte au Judas qui fut ouverte. Là, il dit au vieux serviteur « Une seconde, mon ami, veuillez m'attendre. » Il revint alors vivement vers le bureau où les 3 hommes conféraient et, se plantant sur le seuil, le bouton de la serrure dans la main, sa retraite assurée, il leur jeta d'une voix aimable « À propos de cette fameuse lettre si compromettante, je dois vous faire un aveu qui vous donnera toute tranquillité. C'est que je n'en ai jamais pris copie, et par conséquent, que mon ami n'en peut pas posséder l'original. Du reste, ne croyez-vous pas que toute cette histoire d'amis qui se promènent aux environs de la préfecture et qui guettent les 3/4 de 4 heures est bien invraisemblable?
Dormez en paix, messieurs, et au plaisir de vous revoir. »
La seconde bataille était gagnée. Au bout de la rue, Joséphine Balsamo, qui l'avait conduit chez Beaumagnan, attendait, la tête penchée hors de la portière d'un fiacre.
« Cocher, gare Saint-Lazare, au départ des grandes lignes !»
Il sauta dans la voiture et s'écria aussitôt, tout frissonnant de joie, l'intonation conquérante.
« Tiens, chérie, voilà les 7 noms indispensables. Voilà la liste. Prends-la. »
Alors ?
Alors ça y est, 2e victoire en un jour.
Oh, et quelle victoire celle-là! Oh mon Dieu, que c'est facile de rouler les gens. Il y a un peu d'audace, des idées claires, de la logique, la volonté absolue de filer comme une flèche vers le but, et les obstacles s'abolissent d'eux-mêmes. Beaumagnan est un malin, n'est-ce pas? Eh bien, il a flanché, comme toi, ma bonne Josine. Hein? Ton élève te fait-il honneur?
2 maîtres de première classe, Beaumagnan et la fille de Cagliostro, écrasés, pulvérisés par un collégien.
Qu'en dis-tu, Joséphine?
Tu ne m'en veux pas, chérie, de parler ainsi.
Mais non, tu n'es plus vexée pour l'histoire de tout à l'heure.
Ah, ne m'en demande pas trop. Vois-tu, il ne faut pas me blesser dans mon orgueil. J'en ai beaucoup et je suis rancunière. Mais avec toi, on ne peut pas t'en vouloir bien longtemps. Toi, quelque chose de spécial qui désarme.
Oh, Beaumagnan n'est pas désarmé, lui. Fichtre, non.
Et Beaumagnan est un homme.
Eh bien, je ferai la guerre aux hommes.
Et je crois vraiment que je suis fait pour ça, Josine. Oui, pour l'aventure, pour la conquête, pour l'extraordinaire et le fabuleux. Je sens qu'il n'est point de situation d'où je ne puisse sortir à mon avantage.
Alors n'est-ce pas, Josine? C'est tentant de lutter quand on est sûr de vaincre. Par les rues étroites de la rive gauche, la voiture courait bon train. On franchit la Seine.
Et je vaincrai, Josine, dès aujourd'hui. J'ai tous les atouts en main. Dans quelques heures, je débarque à Lillebonne, je déniche la veuve Rousselin, et qu'elle veuille ou non, j'examine le coffret en bois des îles, sur lequel est gravé le mot de l'énigme. Et ça y est, avec ce nom-là, et avec le nom des 7 abbayes, c'est bien le diable si je ne décroche pas la timbale.
Josine riait de son enthousiasme. Il exultait.
Il racontait son duel avec Beaumagnan. Il embrassait la jeune femme, faisait des pieds de nez aux passants, ouvrait la glace, insultait le cocher dont le cheval trottait comme une limace.
Mais au galop, don vieux bougre ! Comment ? Hé, tu as l'honneur de traîner dans ton char le dieu de la fortune et la reine de la beauté, et ton coursier ne galope pas !
La voiture suivait l'avenue de l'Opéra. Elle coupa par la rue des Petits Champs et la rue des Capucines. Dans la rue Caumartin, le cheval prit le galop.
« Parfait. 5h-12. Nous arriverons.
Bien entendu, tu m'accompagnes à Lillebonne.
Pourquoi ? C'est inutile. Que l'un de nous deux y aille, c'est suffisant.
À la bonne heure. Tu as confiance en moi et tu sais que je ne trahirai pas et que la partie est liée entre nous. La victoire de l'un est la victoire de l'autre. »
Mais comme on approchait de la rue Aubert, une porte cochère s'ouvrit brusquement sur la gauche. La voiture tourna sans que le train fût ralenti et pénétra dans une cour. Trois hommes se présentèrent de chaque côté. Raoul fut happé brutalement et enlevé avant même d'esquisser un geste de résistance. Il eut juste le temps de distinguer la voix de Joséphine Balsamo qui, restée dans la voiture, commandait
« Gare Saint-Lazare, et vivement !»
Déjà, les hommes le précipitaient à l'intérieur d'une maison et le jetaient dans une pièce à moitié obscure, dont la porte massive fut barricadée derrière lui. L'allégresse qui bouillonnait en Raoul était si forte qu'elle ne retomba pas aussitôt. Il continua de rire et de plaisanter, mais avec une rage croissante qui altérait le timbre de sa voix.
« À mon tour !» Bravo, Joséphine. Ah, quel coup de maître. Voilà qui est envoyé, en pleine cible.
Ah, est vrai, je ne m'y attendais pas.
Non, mais ce que ça devait t'amuser, mes chants de triomphe. Je suis fait pour la conquête, pour l'extraordinaire et le fabuleux. Idiot. Quand on est capable de pareilles boulettes, on ferme la bouche. Quelle dégringolade.
Il se rua sur la porte.
À quoi bon ? Une porte de prison.
Il essaya de grimper vers un petit vasistas qui laissait filtrer une lumière jaunâtre.
Mais comment l'atteindre ?
D'ailleurs, un léger bruit attira son attention. Et dans la pénombre, il s'aperçut qu'un des murs, à l'angle même du plafond, était percé d'une sorte de meurtrière par où jaillissait le canon d'un fusil braqué en plein sur lui, se déplaçant et s'immobilisant dès que lui-même se déplaçait ou restait immobile. Toute sa colère se tourna vers le tireur invisible, qu'il accabla généreusement d'invectives.
« Canaille ! Misérable ! Descends donc ton trou pour voir comment je m'appelle ! Quel métier tu fais ! Et puis va dire à ta maîtresse qu'elle l'emportera pas au paradis, et qu'avant peu... »
Il s'arrêta soudain. Tout ce verbiage lui semblait stupide, et passant de la colère à une résignation subite, il s'étendit sur un lit de fer dressé dans une alcôve qui formait aussi cabinet de toilette.
« Après tout, tue-moi si ça te plaît, mais laisse-moi dormir. »
Dormir, Raoul n'y songeait pas. Il s'agissait d'abord d'envisager la situation et d'en tirer les conclusions désagréables qu'elle comportait. Et c'était là chose facile, qui se résumait en une phrase. Joséphine Balsamo se substituait à lui pour recueillir les fruits de la victoire qu'il avait préparée. Mais quel moyen d'action fallait-il qu'elle eût à sa disposition pour avoir réussi en si peu de temps ? Raoul ne doutait pas que Léonard, accompagné d'un autre complice et d'une autre voiture, ne les eût suivis jusque chez Beaumagnan et ne se fût aussitôt concerté avec elle. Sur quoi, Léonard allait tendre le piège de la rue Caumartin dans un logis spécialement affecté à cet usage, tandis que Joséphine Balsamo attendait. Que pouvait-il faire, lui, à son âge et seul contre de tels ennemis ? D'une part, Beaumagnan,
avec tout un monde de correspondants et d'affidés derrière lui. D'autre part, Joséphine Balsamo et toute sa bande si puissamment organisée. Raoul prit une résolution. Que je rentre plus tard dans le bon chemin, comme je l'espère, ou que je m'engage définitivement sur la route des aventures, ce qui est plus probable, je jure que, moi aussi, je disposerai des moyens d'action indispensables. Malheur aux solitaires. Il n'y a que les chefs qui atteignent le but. J'ai dominé Joséphine, et cependant, c'est elle qui ce soir mettra la main sur le coffret précieux, tandis que Raoul gémit sur la paille humide. Il en était là de ses réflexions lorsqu'il se sentit envahi d'une torpeur inexplicable qui s'accompagnait d'un malaise général. Il lutta contre ce sommeil insolite, mais très rapidement, son cerveau s'emplissait de brume. En même temps, il avait des nausées et une impression de pesanteur à l'estomac. Secouant sa faiblesse, il réussit à marcher. Cela dura peu, l'engourdissement croissant, et tout à coup, il se rejeta sur son matelas, étreint par une pensée effroyable. Il se souvenait que dans la voiture, Joséphine Balsamo avait tiré de sa poche une petite bonbonnière en or dont elle se servait habituellement, et tout en prenant deux ou trois dragées qu'elle avalait aussitôt, lui en avait offert une, d'un geste machinal. « Ah !» murmura-t-il tout couvert de sueur. « Elle m'a empoisonné. Les dragées qui restaient contenaient du poison. » Ce fut une pensée dont il n'eut pas le loisir de vérifier la justesse. Saisi de vertige, il lui semblait tournoyer au-dessus d'un grand trou dans lequel il finit par tomber en sanglotant. L'idée de la mort envahit Raoul assez profondément pour qu'il ne fût pas très sûr d'être vivant quand il rouvrit les yeux. Il fit péniblement quelques exercices de respiration, se pinça, parla tout haut. Il vivait. Les bruits lointains de la rue achevèrent de le renseigner. Décidément, je ne suis pas mort. Mais quelle haute opinion j'ai de la femme que j'aime. Pour un pauvre narcotique qu'elle m'a administré, comme c'était son droit, je l'accuse aussitôt d'être une empoisonneuse. Il n'aurait pu dire exactement combien de temps il avait dormi. Un jour? Deux jours? Davantage? Sa tête était lourde, sa raison vacillait, et une courbature infinie lui liait les membres. Le long du mur, il avisa un panier de provisions que l'on avait dû descendre par la meurtrière. Aucun fusil ne paraissait là-haut. Il avait faim et soif. Il mangea et but. Sa lassitude était telle qu'il ne réagissait plus à l'idée des conséquences que ce repas pouvait entraîner. Narcotique, poison, qu'importait. Sommeil passager, sommeil éternel, tout lui était indifférent. Il se coucha de nouveau et de nouveau s'endormit pour des heures, pour des nuits et des jours. À la fin, si accablant que fut son sommeil, Raoul d'Andrézy parvint à prendre conscience de certaines sensations, de même qu'on devine le terme d'un tunnel aux bouffées de lumière qui blanchissent les parois ténébreuses. Sensation plutôt agréable. C'était, sans aucun doute, des rêves. Rêves de balancement très doux que rythmait un bruit égal et continu. Il lui arriva de soulever ses paupières. Et alors, il apercevait le cadre rectangulaire d'un tableau dont la toile peinte bougeait et se déroulait en paysage constamment renouvelé, éclatant ou sombre, inondé de soleil ou flottant dans un crépuscule doré. Maintenant, il n'avait plus qu'à étendre le bras pour saisir les aliments. Il en goûtait peu à peu et davantage la saveur. Un vin parfumé les accompagnait. Il lui semblait, en le buvant, que de l'énergie coulait en lui. Ses yeux s'emplissaient de clarté. Le cadre du tableau devenait le châssis d'une fenêtre ouverte qui laissait voir une succession de collines, de prairies et de clochers de villages. Il se trouvait dans une autre pièce, toute petite, qu'il reconnut pour l'avoir habitée déjà. À quelle époque ? Il y avait ses vêtements, son linge et des livres à lui. Un escalier en échelle s'y dressait. Pourquoi ne montrait-il pas, puisqu'il en avait la force ? Il lui suffisait de vouloir. Il voulut, et il monta. Sa tête souleva une trappe et surgit dans l'espace infini. Un fleuve, à droite et à gauche. Il chuchota « Le pont de la Nonchalante, la Seine, la côte des deux amants. » Il avança de quelques pas. Josine était là, assise dans un fauteuil d'osier. Il n'y eut réellement point de transition entre les sentiments de rancune combative et de révolte qu'il éprouvait contre elle et le sursaut d'amour et de désir qui le secoua des pieds à la tête. Et même, avait-il jamais ressenti la moindre rancune et la moindre révolte ? Tout se confondit en un immense besoin de la presser dans ses bras. Ennemie, voleuse, criminelle peut-être ? Non, femme seulement, femme avant tout. Et quelle femme ! Habillée très simplement comme à l'ordinaire, elle portait ce voile impalpable qui tamisait les reflets de ses cheveux et lui donnait une telle ressemblance avec la Vierge de Bernardino Luini. Le cou était nu, d'une teinte chaude et tiède. Ses mains fines s'allongeaient l'une près de l'autre sur ses genoux. Elle contemplait la pente abrupte des deux amants. Et rien ne pouvait paraître plus doux et plus pur que ce visage empreint de l'immobile sourire qui en était l'expression profonde et mystérieuse. Raoul la touchait presque au moment où elle l'aperçut. Elle rougit un peu et baissa les paupières, laissant filtrer entre ses longs cils bruns un regard qui n'osait pas se fixer. Jamais adolescente ne montra plus de pudeur et de crainte ingénue. Jamais moins d'apprêt et de coquetterie. Il en fut tout ému. Elle redoutait ce premier contact entre eux. N'allait-il pas l'outrager ? Se jeter sur elle, la frapper, lui dire d'abominables choses ? Ou bien s'enfuir avec ce mépris qui est pire que tout ? Raoul tremblait comme un enfant. Rien ne comptait pour lui à la minute actuelle, que ce qui compte éternellement pour les amants, le baiser, l'union des mains et des souffles, la folie des regards qui s'étreignent et des lèvres qui défaillent de volupté. Il tomba à genoux devant elle.